Vous écoutez, on lit pour vous.
Start-up des pistes pour recycler le dioxyde de carbone. Un texte de Pierre Vandegenst, paru dans le numéro avril-juin 2023 du magazine La Recherche. De multiples solutions existent pour réduire nos émissions de dioxyde de carbone. On peut par exemple, au cas par cas, jouer sur l'efficacité, la sobriété, voire la frugalité énergétique. Mais il est aussi possible, à certaines conditions, de capter ce gaz à effet de serre afin de le séquestrer ou de le valoriser. De nombreuses jeunes pousses explorent ainsi des pistes visant à le convertir en carburant vertueux ou en molécules pour l'industrie chimique. Cinélion, concentrer les rayons du soleil et convertir le CO2 en carburant. En attendant l'avion à hydrogène, qui ne dégagerait plus de dioxyde de carbone, CO2, le secteur aérien cherche un kérosène plus vert afin d'alimenter ses réacteurs actuels. Un carburant obtenu à partir de sources renouvelables, comme le biogaz, un mélange de méthane, CH4, et de CO2. Ou, mais c'est plus difficile, à partir du seul CO2. Pour synthétiser ce carburant, encore faut-il une source d'énergie durable. Le solaire? Cinélion, une start-up suisse, emprunte une voie radicale. En concentrant les rayons de notre étoile, elle transforme à très haute température, en présence d'un catalyseur, ces gaz additionnés de vapeur d'eau en syngas, gaz synthétique. Un mélange de monoxyde de carbone, CO, et d'hydrogène, H2, que l'on sait transformer en divers carburants, comme l'essence ou le kérosène, en faisant appel au procédé Fischer-Tropsch, inventé en 1923. La jeune pousse valorise des travaux menés à l'École polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse, par l'équipe d'Aldo Steinfeld, aujourd'hui son conseiller scientifique. Après avoir testé à petite échelle les procédés de l'École polytechnique fédérale de Zurich, Cinélion a entrepris de construire à Jülich, près de Cologne en Allemagne, un pilote industriel qui devrait produire courant 2023 du carburant solaire pour décarboner le secteur des transports. Premier client, Swiss, la principale compagnie aérienne helvétique. Cinélion prévoit aussi la construction en Espagne d'une unité de production bien plus grande qui devrait entrer en service en 2025 et permettre à la start-up de produire 1,6 million de litres par an. En 2030, elle vise 875 millions de litres à 1 euro le litre. Le procédé de production de syngas, conçu à l'École polytechnique fédérale de Zurich, se divise en trois étapes. Il faut d'abord concentrer la lumière. À Jülich, 1500 m² de miroir orientable redirige les rayons solaires sur un point focal situé au sommet d'une tour de 20 mètres. Deuxième étape. La lumière issue du champ de miroir pénètre à travers une fenêtre en quartz dans le récepteur, une cavité noire où circule un fluide caloporteur. Il s'agit de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, dont le rôle est de capter et accumuler la chaleur et de la transporter vers le réacteur. Le fluide caloporteur y croise un réseau de tubes à l'intérieur duquel a lieu la réaction thermochimique en présence d'un catalyseur, une mousse poreuse d'oxyde de cérium. Nous avons été les premiers à travailler sur les oxydes de cérium dès 2006 pour la dissociation de l'eau et la conversion du CO2 en combustible, H2 syngas. Sur le four solaire d'Odeio, rappelle Stéphane Abanades, chercheur au laboratoire du CNRS, procédés matériaux et énergie solaire à Font-Romeu, Pyrénées-Orientales. Nous explorons aussi d'autres matériaux, notamment des perovskites, manganite de lanthanes ou de calcium et d'autres minéraux de structure similaire, ou encore des ferrites, c'est-à-dire des oxydes mixtes de fer et d'un autre métal comme le nickel. Mais jusqu'à présent, il n'existe pas de meilleur candidat que l'oxyde de cérium en termes de cinétique de production de syngas et de stabilité des performances en réacteur solaire. Dans un premier temps, l'installation de Jülich produira du kérosène à partir de biogaz brut comme source de carbone plutôt que du seul CO2. La première solution est rodée et nécessite une température moins élevée, 800 à 1200 degrés centigrades, que la seconde, 1500 degrés centigrades, qui est aussi plus coûteuse. La biomasse est une source de carbone renouvelable qui coûte entre 50 et 70 euros la tonne et contient autant de carbone que 2 tonnes de CO2, explique Gianluca Ambrosetti, président et cofondateur de Synelion. En comparaison, le CO2 d'origine atmosphérique, la seule autre option vraiment renouvelable, coûte 800 euros la tonne. Climeworks, une start-up sœur de Synelion, spin-off du même laboratoire de l'École polytechnique fédérale de Zurich, est un spécialiste réputé de cette capture directe du CO2 dans l'air ambiant. DAC pour Direct Air Capture. Si le prix du CO2 obtenu par DAC descend un jour à 200 ou 100 euros la tonne, ajoute Gianluca Ambrosetti, ce sera une alternative formidable. Sachant que capter le CO2 sur un site industriel a un coût qui, sauf rare situation particulière, se situe entre 50 et 180 euros la tonne, selon l'industrie considérée. Les avions émettront encore quelque temps du CO2, mais bientôt, donc, certains brûleront un carburant produit en partie à partir de CO2 en attendant le kérosène issu à 100% du dioxyde de carbone. Oxylum, convertir le CO2 en molécules valorisables. Capturer le CO2, c'est bien. Le valoriser, c'est encore mieux. Oxylum industrialise un procédé électrochimique économe en énergie développé à l'Université d'Anvers, en Belgique, au sein de l'équipe de Tom Brugelmans, le conseiller scientifique de la start-up. Dans un premier temps, elle transformera le CO2 plus H2O en acide formique, CH2O2. Il existe une demande, notamment dans les secteurs agricoles, pharmaceutiques et textiles, explique Berthe Desmottes, président cofondateur de la start-up. Par la suite, nous prévoyons, entre autres, de produire de l'éthylène. Cet hydrocarbure, C2H4, aujourd'hui issu du pétrole, est très utilisé dans l'industrie chimique, notamment comme point de départ de la production de polymères. L'efficacité de notre réacteur, poursuit Berthe Desmottes, repose sur de nombreux facteurs concernant les électrodes, l'électrolyte, la membrane. Le catalyseur est une des pièces du puzzle. Nous faisons appel à des matériaux non nobles et même abondants sur Terre. Nous avons réalisé un prototype qui produit 1 kg d'acide formique par jour. Dans la zone industrielle d'Anvers, il ne sera pas trop difficile de se procurer du CO2. Certains sites captent déjà celui dégagé par leur propre processus, assure Berthe Desmottes. Nous cherchons le bon candidat pour alimenter un pilote industriel qui devrait produire des tonnes par jour en 2025. En bref, stocker l'électricité durable. À Rennes, Kimiwatt élabore depuis 2014 sa technologie de batterie à flux, faisant appel à un électrolyte organique biodégradable, recyclable, à base d'anthraquinone, C14H8O2, un hydrocarbure aromatique organisé autour de 3 cycles de benzène. un démonstrateur a permis de prouver une excellente stabilité dont on espère une durée de vie de l'ordre de 20 ans. Ce qui fait de cette technologie un candidat pour stocker l'électricité d'origine solaire, éolienne ou autre source intermittente. Chaleur mobile. Récupérer et valoriser la chaleur fatale, 100 à 200 degrés centigrades, que des sites industriels produisent sans pouvoir l'exploiter est une manière d'économiser l'énergie. Water Horizon, près de Toulouse, a mis au point une batterie thermique transportable reposant sur l'évaporation d'une solution saline qui conviendra à certaines situations. Une levée de fonds de 5 millions d'euros finalisée en mars 2022 doit permettre à la start-up de réaliser un premier pilote industriel qui devrait entrer en fonction dans le courant de l'année 2023. C'était Start-up, des pistes pour recycler le dioxyde de carbone. Un texte de Pierre Van de Ginst, paru dans le numéro avril-juin 2023 du magazine La Recherche.
Piscine, handicap et comédie. Un texte de Marc-André Lemieux, paru le 22 janvier 2024 dans La Presse. C'est un projet bien spécial, indique le réalisateur Louis Choquette en s'assoyant pour discuter de Vestiaire, sa nouvelle série télé. Dans tout autre contexte, cette phrase sonnerait creux et semblerait convenue. Mais aujourd'hui, elle paraît sincère. Car Vestiaire rassemble des gens qu'on voit rarement en fiction au Québec, des personnes handicapées. Tourné au Centre Gadebois, un complexe récréatif situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, la comédie à sketch sera diffusée au printemps sur Ami Télé, à compter du 8 avril, et éventuellement en deuxième fenêtre à Radio-Canada. Adaptation d'un format français à succès présenté sur France 2 depuis 2011, Vestiaire brosse le portrait d'un club de nageurs qui s'entraîne chaque semaine en piscine. La distribution est composée de noms inconnus du grand public, à l'exception de Dominique Sillon, membre du duo comique Dominique et Martin. L'humoriste, qui agit comme producteur au contenu, fait également partie du groupe d'auteurs, dont certains présentent un handicap. Car, durant toute l'aventure, la boîte de production de l'émission, Sphère Média, Cérébrum Transplant, à favoriser l'inclusion de personnes handicapées devant et derrière la caméra, direction artistique, son montage. C'était important pour nous d'avoir leur point de vue, indique José Vallée, qui produit la série avec Renaud Chassé. On voulait faire quelque chose de crédible. C'est possible. La presse a assisté au tournage d'une scène durant sa visite exclusive du plateau de Vestiaire la semaine dernière. On pouvait y voir Dominique Sillon, en surdose de caféine, tentait de tenir une conversation cohérente avec Michel Cordé, sa co-vedette. Comme la plupart des acteurs de Vestiaire, ce dernier n'avait aucune expérience de jeu avant d'être recruté par Louis Choquette et compagnie. Monteur en télévision depuis une dizaine d'années et créateur d'une chaîne YouTube, Tutoriel avec Michel, aussi amusante qu'informative, Michel Cordé réalise un rêve qu'il croyait inaccessible en jouant la comédie. « Je tripe ma vie présentement. Chaque jour, je suis comme un enfant. Je n'en reviens pas d'être en train de vivre ça », nous dit Michel Cordé. En fauteuil roulant en raison d'une affection génétique appelée ostéogenèse imparfaite, maladie des os de verre, l'homme de 38 ans salue l'initiative de Sphère Média et d'Ami Télé d'avoir engagé des personnes handicapées pour interpréter des personnages handicapés. Ce que je trouve le fun avec Vestiaire, c'est qu'on montre aux personnes handicapées que c'est possible de jouer à la télé, qu'il y a un chemin. Je faisais beaucoup de théâtre quand j'étais jeune, mais rapidement, j'ai fait une croix là-dessus parce qu'il n'y avait pas vraiment d'ouverture quand je suis entré au cégep il y a 15-20 ans. Représentativité. La télévision québécoise a accompli des progrès significatifs au cours des dernières années en matière de diversité, tant culturelle que sexuelle, notamment avec des séries comme « Après le déluge »,« Lac et nous », »,« Les petits rois » et « Sans rendez-vous ». Vestiaire s'inscrit dans cette lignée, estime Louis Choquette. On sent qu'on est quand même dans une période de changement. Je viens de tourner la troisième saison des Bracelets rouges. Dans les épisodes, il y a des personnages avec des amputations qui ne sont pas joués par de vrais handicapés. Mais on dirait que c'est quelque chose qui change. On se pose de plus en plus de questions là-dessus. Est-ce que ce n'est pas l'occasion d'aller chercher des gens qui vivent vraiment ce genre de situation? Plateau de tournage. Louis Choquette avoue toutefois avoir ressenti de petits vertiges en début de projet, étant donné qu'il s'apprêtait à diriger une distribution majoritairement composée d'amateurs. En entrevue, le réalisateur parle de challenges énormes, mais également d'expériences inoubliables et formatrices. Dans nos petites vies, Vestiaire, c'est un événement extraordinaire, mais je pense que sur le plan social, c'est important. Pour l'ouverture d'esprit, la tolérance, on en a tous grandement besoin. En maillot. Autre caractéristique propre à Vestiaire, les scènes sont presque toutes jouées en maillot de bain. La série montrera les corps, les amputations, les prothèses, etc. Du côté des comédiens, on comprend l'importance d'exposer la différence. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, souligne Jacques Poulain-Denis, 45 ans, l'un des rares à posséder une expérience de jeu. C'est une grosse victoire d'emblée. Animatrice et conférencière, Camille Choi, 34 ans, savait dans quoi elle s'embarquait en passant l'audition. Née sans bras ni jambes gauche, l'actrice en herbe ne s'est jamais cachée. Pour moi, ce n'est pas vulnérabilisant. J'aime aller nager. Ce n'est pas un problème qu'on voit ma prothèse, dit Camille Choi. Ça peut permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre notre réalité, ajoute Marie-Christine Rissignuglio. Ça peut aussi leur montrer qu'ils doivent arrêter de percevoir les personnes handicapées comme des victimes. Objectif double. Les paroles de Marie-Christine, conférencière et collaboratrice à Ami Télé, qui a perdu la vue en 2018 à cause d'un glaucome, traduisent bien l'objectif de l'équipe derrière Vestiaire. On souhaite divertir, mais aussi sensibiliser. On veut démystifier le handicap, explique Dominique Sillon, qui porte un œil de verre depuis plusieurs années. Il y a des gens qui sont mal à l'aise en présence de personnes handicapées. Ils ne savent pas trop quoi faire. C'est quelque chose que j'observe quand je signe des autographes après un spectacle. Les gens hésitent parfois à m'approcher parce qu'ils ont peur que je voie qu'ils regardent mon handicap. Pour Louis Choquette, l'humour contenu dans Vestiaire fera œuvre utile. Retrouver à l'écran des gens handicapés qui ont une vie, qui ont quelque chose à dire, qui sont capables de parler d'eux et d'en rire, tout le monde peut y gagner. La première saison de Vestiaire sera diffusée sur Ami Télé dès le 8 avril et ensuite sur ICI-tout.tv. C'était Piscine, handicap et comédie, un texte de Marc-André Lemieux, paru le 22 janvier 2024 dans La Presse.
Si j'étais ministre de l'Immigration, un texte de Francis Vaille, paru le 3 février 2024 dans La Presse. Ce que je ferais si j'étais ministre de l'Immigration? Surtout pas dégonfler le seuil annuel d'immigration permanente à moins de 35 000, comme le propose le PQ, et raisonner le fédéral. Voici pourquoi. D'abord, le constat. Actuellement, il n'y a pratiquement pas de limite au volume d'immigration temporaire que peut recevoir le Québec. Pour l'un des principaux programmes, les entreprises n'ont qu'à démontrer que leurs besoins ne sont pas comblés par le marché du travail local, essentiellement, et un permis de 2-3 ans est accordé à leurs candidats. Pas de plafond d'ensemble, donc. L'an dernier, il s'est ainsi ajouté 167 000 résidents non permanents au Québec, trois fois plus qu'en 2022. Les deux tiers de ces non permanents, 112 000, sont des travailleurs temporaires, avec leur famille et le reste, des demandeurs d'asile. Ces travailleurs temporaires s'accumulent d'année en année, au rythme des besoins des entreprises. Fin 2023, il y en avait 367 000 au Québec, selon Statistique Canada. Bien souvent, ces travailleurs se sont intégrés à leur milieu, ont commencé à apprendre le français et trouver un logement. Ils deviennent indispensables à leurs entreprises qui les ont formés. La plupart rêvent de vivre ici et d'obtenir la citoyenneté en devenant permanents. Le hic, c'est que seule une poignée peuvent devenir permanents chaque année, en fonction des seuils établis par le gouvernement du Québec. Ce seuil annuel a été fixé à 50 000 pour chacune des années 2024 et 2025, mais en retranchant les réfugiés et les réunions familiales, entre autres, on tombe à 32 000. Bref, il faudrait l'équivalent de 10 ans pour permanentiser les 367 000 temporaires. Et ce volume de travailleurs temporaires précaires s'agrandit sans cesse, comme un robinet qui coule à flot dans un évier dont le trou d'écoulement ne grossit pas. Et le PQ se propose de rapetisser le trou de 40 %. Imaginez les drames et les débordements à venir. Actuellement, les services aux immigrants, tant gouvernementaux que communautaires, ne fournissent pas. Il n'y a qu'à jeter un œil aux avis Google du site Web du ministère de l'Immigration pour s'en convaincre. La plupart des 191 utilisateurs qui ont coté le site, avec leur nom, se plaignent de la piètre qualité du service du ministère, des très longs délais pour avoir des autorisations et de l'incapacité à trouver des cours de français, entre autres. La moyenne est de 2,1 étoiles sur 5, mais ce serait probablement pire, puisque plusieurs disent qu'ils auraient souhaité mettre zéro, alors que le minimum est de une étoile. Et en parallèle, le marché de la location de logements est en surchauffe, avec un taux d'inoccupation historiquement bas, 1,5 % à Montréal et 0,9 % à Québec, et des loyers en forte hausse. Et je ne parle pas des services de garde, d'éducation et de santé. Ce que je ferais si j'étais ministre de l'Immigration? D'abord, je trouverais une façon de freiner l'immigration économique temporaire. Le moment est bien choisi, puisque la pénurie de main-d'œuvre s'est atténuée avec le ralentissement économique. Et le message, à terme, serait limpide. Entrepreneurs, la main-d'œuvre non essentielle deviendra encore moins disponible. Alors, investissez dans des équipements pour vous en passer. De grâce, et augmentez votre productivité. Ensuite, je raisonnerai le fédéral pour qu'il diminue le nombre de permis ouverts qu'il accorde en vertu du Programme de mobilité internationale, PMI. La délivrance de ces permis n'exige pas que soit faite une évaluation d'impact sur le marché du travail, comme c'est le cas des permis délivrés par le Québec en vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET. Et il faut bien sûr régler le dossier des demandeurs d'asile, dont 46 % débarquent au Québec. Québec et Ottawa ont avancé des propositions pour résoudre le problème, cela dit. Parallèlement à cette baisse des travailleurs temporaires, je doperai la cible d'immigrants permanents à 75 000 pendant 2-3 ans, par exemple, avant de retomber à 50 000. Seule condition, que les nouveaux permanents soient puisés à même les temporaires, pour l'essentiel, ce qui est déjà le cas de toute façon. Ces deux actions videraient une bonne partie de l'évier en réduisant le flot d'eau du robinet tout en élargissant le trou de sortie. Bref, pendant quelque temps, il faut réduire l'immigration temporaire, mais augmenter les permanents, sans quoi il y aura, à terme, deux classes de citoyens au Québec. Vous me direz que c'est plus facile à dire qu'à faire, et vous aurez raison. Surtout que ce frein aux travailleurs temporaires exigera un écrémage entre les indispensables et les autres. Or, à ce sujet, la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, a entrepris une réforme intéressante qui devrait justement permettre de mieux sélectionner les immigrants permanents. Le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés, PSTQ, entre en vigueur en novembre prochain. La grille de sélection actuelle, qui avantage les universitaires sans égard aux besoins du marché, sera éliminée, ce qui devrait diminuer les risques de surqualification. Pensez aux mathématiciens, qui est chauffeur de taxi. On continuera de choisir les talents d'exception ou encore les immigrants hautement qualifiés ou spécialisés. Mais le diplôme universitaire ne sera pas nécessairement requis. Technicien en génie mécanique, par exemple. Surtout, il y a un volet qui permettra aux employés manuels ou ayant des compétences intermédiaires d'être sélectionnés s'ils ont une expérience de travail au Québec, qu'on pense aux cuisiniers ou aux conducteurs, entre autres. Avec le PSTQ, une préposée aux bénéficiaires, avec de l'expérience au Québec, aura donc plus de points pour devenir permanente qu'un doctorant en philosophie, en supposant que les deux parlent français. Enfin, les immigrants de profession réglementée pourront accélérer le traitement de leur dossier s'ils ont obtenu une reconnaissance, partielle ou complète, de l'ordre professionnel de leur secteur au Québec, infirmière, ingénieur, etc. L'immigration ne sera jamais un dossier facile, surtout qu'il est géré à deux têtes. On verra si la réforme Fréchette fonctionnera, mais chose certaine, l'immigration a besoin d'être mieux planifiée et les services d'accueil mieux organisés, en fonction d'un niveau soutenable. C'était « Si j'étais ministre de l'immigration », un texte de Francis Veil, paru le 3 février 2024 dans La Presse.